Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Camille Bondon et je me pose beaucoup de questions. Je me demande ce qui se passe dans votre tête, par exemple là maintenant, ce qui se passe aussi dans votre cœur, dans votre corps. Et cet été, je me suis demandé qu'est-ce qui occupait vos nuits, l'espace de vos nuits. Certaines et certains d'entre vous m'ont répondu. Vous êtes une bonne vingtaine à m'avoir envoyé vos récits de rêves racontés au réveil dans la voix un petit peu embrumée encore de la nuit. Et vous, les rêveurs et les rêveuses, vous nous écoutez en Mayenne, vous nous écoutez aussi à Rémillac dans le Morbihan. Certains sont à Paris, d'autres dans le sud. Il y en a qui sont sur la route, certains à Caen, d'autres à Rennes, et il y en a même à Berlin, à Cassel et aux Canaries. Nous, nous sommes ici. Ici, c'est Batavilles. Nous sommes à la fabrique autonome des acteurs qui occupe l'un des bâtiments de l'ancienne usine de chaussures de Bata. Et j'ai dessiné il y a 3 jours une clairière dans la forêt attenante. Donc on est réunis en cercle autour d'un arbre tombé. Il n'est pas mort parce qu'il y a encore des feuilles qui poussent. Et on est là pour écouter vos rêves, chers rêveurs et chères rêveuses. Et je voulais vous remercier pour la confiance que vous m'avez faite à me partager vos récits. Aujourd'hui, au programme, nous allons écouter Mouvement, Faire du tri, Complètement paumé, Crottin à la carotte, Fenêtre ouverte, Mon petit lapin, Course de coussin, Des positions, au restaurant, tête d'œuf, scorpion crabe, creuser un trou, enfant abandonné, nouveau chemin, mes enfants, chambre lumineuse, Mbappé en vrai et cousin Emmanuel. C'est une œuvre collective initiée par Camille Bondon et Michel Dupuis, avec pour cette séance les rêves de Karine, Anaïs, Alice, Thomas, Laura, Amandine, Claire, Camille, Cléo, Maxime, Camille, Mathieu, Fanny, Tania, Morgane, Fabien, Ethan, Estelle, Izipété, Amandine, Isabelle, Cyril, Marie-Paul, Lila, Alice et Marion. Voilà, on attend les dernières personnes. Donc on est assis dehors, dans la forêt. On peut voir plein de petites gouttes de pluie encore présentes sur les feuilles. Certaines nous glissent dessus quand il y a une brise de vent. Il fait frais et ça sent bon la mousse. Et on se sent bien.
Cette nuit, j'ai eu un rêve avec beaucoup de mouvements, mais je me ne souviens plus.
Je suis dans une jolie maison dont le jardin fait face à la mer ou à la rivière. Je sais pas. Et dans cette maison, je fais du tri. Du tri dans un grand placard. Je vais voir dans le fond des tiroirs, des étagères. Je trie des lettres, des photos, comme si je cherchais quelque chose. Qui venait de la part de ma mère. Mais en fait, je suis un petit peu énervée contre elle, ma mère. Elle a pas très bien rangé, tout est mélangé. Il y a des choses périmées aussi. m'attaque au jardin. Devant la maison, il y a un pot de fleurs qui est presque au bord de l'eau, un gros pot avec une plante presque morte. Je me décide à le porter pour l'enlever. Et là, la voisine sort de chez elle, arrive sur sa terrasse, pas contente du tout. Oui, alors là, vous n'avez pas le droit d'enlever ce pot, cette plante. Non, moi je vais vous dénoncer si vous enlevez cette plante. J'ai beau essayer d'en caser une et de lui expliquer pourquoi je l'enlève, elle ne m'écoute pas. Trop en colère. Alors j'ai envie d'être provocante et, sans l'écouter, de rentrer avec mon pot de fleurs. Sauf que ma belle-mère, qui était aussi à côté de moi, se met pacifiquement à lui expliquer que, d'après la loi, nous avons le droit d'enlever la fleur morte. Un peu plus tard, je me retrouve justement chez la voisine à son rez-de-chaussée. Je dois y transporter des grandes tables. Et je me rends compte que, en fait, c'est une salle d'attente. Deux jeunes, environ la trentaine, attendent leur tour. Et là, je vois la voisine descendre un escalier en bois. Je pense qu'elle est peut-être naturopathe, un peu psychologue naturopathe. Sauf qu'aujourd'hui, elle craque. Sa secrétaire lui demande ce qu'il y a. Elle commence à marmonner avec tristesse et en pleurant. Et la secrétaire nous explique qu'elle craque. Elle prend une patiente et elle remonte l'escalier. Moi, je continue mon chemin dans les maisons du voisinage, dans la rue, et il y a une joie flottante. Il y a quelque chose de gai, comme un beau projet qui se prépare. Je me retrouve à déchirer d'immenses tissus colorés avec des passants, des jeunes qui m'aident spontanément. Tout en enroulant le tissu et en le déchirant, il y a un jeune homme qui me regarde et je me sens regardée et appréciée. Et ça fait du bien. Ça fait longtemps que ça m'était arrivé.
Et où je prends les transports en commun et je sors des transports et là j'arrive à une sorte de centre commercial, une sorte de grand magasin où il y a beaucoup de foule, beaucoup de monde, je vois des gens courir en sens inverse. Je sens un peu paniqué. Au début, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je vois bien qu'il se passe quelque chose quand même. Et donc je décide de rebrousser chemin, mais en fait je me rends compte que je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas à Paris, je suis dans une autre ville. Du coup je retrouve pas mon chemin, j'essaie de demander à des gens mais personne me répond. Je vois des gens qui sont dans une sorte de gare. Voilà, regroupé. Il y a un groupe qui est en train comme d'essayer de réanimer quelqu'un. Et j'essaie de pénétrer dans une gare, sauf que à un moment donné, ça. Enfin, en descendant les marches, il y a une sorte de bouchon. Enfin, ça bloque, plus personne avance. Du coup, je sens que ça me fait peur et je préfère repartir en arrière. De peur qu'il se passe quelque chose aussi. Et je me sens complètement perdue dans cette ville, j'ai aucun repère. Donc je décide d'avancer un peu, de marcher un peu au hasard. Donc j'avance et puis je me retrouve rapidement dans la campagne, un peu dans des chemins caillouteux. Je crois même qu'à un moment donné, je me mets à voler pour voir un peu dans quelle ville je me trouve. Et je crois que ça semble là, je comprends que je suis vers Reims. Donc en fait, je suis partie dans le mauvais sens en prenant le train. C'est ce que je comprends. Puis là, je croise une jeune femme qui sort dehors avec une casserole d'eau bouillante. Qui a l'air un peu handicapée. Et j'essaie de de lui demander si je peux avoir une carte parce que mon portable marche pas et que je suis complètement perdue et qu'il faut que je me retrouve. Et elle me dit quelque chose mais je comprends pas, mais je la suis un peu dans l'entrée de sa maison et quand elle ouvre la porte il fait noir. J'entends juste quelqu'un qui joue au piano au loin et... Mais ça me fait peur donc j'entre pas. Et voilà, je continue d'avancer. Et là pareil, je suis un peu dans des chemins. Je sais pas si c'est de campagne, mais des petits chemins dans des hameaux. Voilà, et là il y a plusieurs jeunes que je croise. Des jeunes à peu près de mon âge qui ont un look assez sympa. Qui commencent à me parler, qui m'expliquent ce qui s'est passé en centre-ville. C'est pas une attaque terroriste, mais un mec alcoolisé qui aurait pété un câble. Et une histoire d'enfant aussi dedans, enfin. Un peu bizarre, c'est pas très clair. Donc ils me disent effectivement voilà que je suis à Reims. Et c'est là où je comprends qu'effectivement je me suis complètement gourée de chemin. Enfin de. Ouais, de sens voilà, de transport. Et voilà, il y a des garçons et des filles, ils sont super sympas. Et il y a un garçon qui arrête pas de me fixer, qui me dévisage complètement. Et il finit par s'approcher de moi et par m'embrasser. C'est assez bizarre la façon dont il m'embrasse d'ailleurs. C'est pas forcément très agréable, mais je me laisse embrasser. Puis après, je me retrouve, je pense, dans leur colocation. Genre, voilà, ils vivent dans une grande maison qui est assez cool. On peut un peu visiter. Voilà, je sais pas trop ce que je fais, mais en tout cas, je suis dans cette maison. Le garçon se dit complètement fou de moi, un truc comme ça. Enfin. Et moi, je suis en train de retrousser mes manches. J'arrête pas de retrousser mes manches pour qu'on voit mon tatouage au niveau de mon bras. Voilà. Et j'essaie de recharger mon portable. Il me donne une sorte de télécommande pour le recharger. Sauf que ça marche pas du tout. Et quand je repars, je me retrouve dans une voiture. Pareil, je suis complètement paumée. J'essaie d'aller me garer dans des endroits sur des parkings où il y a du monde, dans des couloirs de bus. Pareil, c'est un peu confus, c'est de m'arrêter comme pour recharger mon portable pour le rebrancher à la voiture. Allume cigare. Et là, ça s'arrête là, je crois.
Je crois que c'était dans le. Au temps des rois. En fait, il y avait une sorte de course hippique dans un hippodrome. Mais tout cabossé. Et en fait, c'était des chevaux qui couraient derrière un lapin comme le lévrier. Mais en fait, le but, c'était qu'ils écrasent le crottin de cheval. En fait, c'était pas un hippodrome, c'était un champ de carottes. Et le crottin de cheval était mixé après avec les carottes. Et en fait, c'était un mets très très recherché par la cour des rois. Et en fait, il fallait récupérer le crottin de cheval et courir entre les chevaux qui couraient en permanence. Donc c'était très dangereux. Il fallait récupérer le crottin et ensuite on faisait cuire ça dans une sorte de coupe géante. Je sais pas si c'était au bain-marie ou un truc comme ça, c'était vraiment très bizarre.
Je suis chez mes grands-parents dans le sud de la France, aux informations. Les nouvelles, à la radio, à la télé.
disent qu'il y a eu une catastrophe nucléaire à Rouen. Le nuage radioactif arrive droit sur nous. Il est chargé de particules radioactives, j'ai peur d'avoir un cancer. Je repense au nuage de Tchernobyl et j'ai peur d'être contaminée. Là, on a très peu de temps pour se calfeutrer dans la maison. Le nuage approche. En fait, il est déjà là. Mes grands-parents essayent de m'aider. Ma sœur aussi, mais ils y sont trop vieux. Ma sœur ferme mal les fenêtres. Alors que si on oublie la moindre ouverture, le poison va s'infiltrer. Les fenêtres sont pas du tout étanches, il y en a beaucoup trop, j'aurais jamais fini à temps. Je cours dans tous les sens, je sens la radioactivité arriver. Il y a des jours sous les fenêtres. Pour boucher les trous dans les ouvertures des fenêtres, j'ouvre une commode blanche. Il y a des vêtements d'enfants à l'intérieur. Les vêtements de quand on était petite avec ma sœur. Je les prends à l'arrache. T-shirt, short, sport d'été. Ils sont minuscules. J'essaye de boucher les ouvertures avec. Je les balance contre les ouvertures. Je déroule du scotch gaffeur. Ma sœur m'aide à panser les blessures. Mes grands-parents sont descendus en bas, dans la cave au sous-sol. Je les rejoins. Maintenant, le nuage est juste au-dessus de nos têtes. Il est énorme. Il est gris, vert, bleu, sombre. Et là, je sens des courants d'air arriver dans la maison. Donc ça veut dire qu'il y a une fenêtre qui a mal été fermée. Je remonte, sachant que je vais être contaminée. Une des dizaines de fenêtres du grenier n'a pas été fermée. Elle est grande ouverte. Et là, je comprends que c'est trop tard.
Oh là là, je viens de faire un rêve horrible. J'étais en colocation avec une amie dans un appartement que je connais absolument pas, que je me suis complètement fabriquée. Et en fait, du coup, il y avait mon petit lapin là qui était dans la cuisine sur le carrelage. Il avait sa patte arrière qui était tendue en arrière et du coup le pauvre il pouvait plus se déplacer correctement. Donc il avait le train arrière qui buguait complètement. Et du coup il faisait pipi. Et en fait son train arrière baignait dans son pipi, enfin le truc affreux. Donc du coup j'étais en train de vouloir l'aider. Et du coup, ma copine me dit « Ah non, mais là, c'est pas possible, on emmène chez le vétérinaire. » Donc, ok, on part chez le vétérinaire. Arrivé chez le vétérinaire, et le vétérinaire commence à éteindre les lumières et tout, commence à éteindre le cabinet. Je dis « Non, mais attendez, il y a encore moi avec mon petit lapin. » C'est oui, bien sûr, on va regarder et tout. Puis bon, il me dit, oh là là, mais c'est rien, ça arrive souvent et tout, c'est pas grave. Ah ok, très bien, je dis, mais mon lapin, il est pas tout jeune et tout. Non, non, mais c'est bon, allez, pas de soucis, c'est reparti. Et après, je me retrouve dans un restaurant avec mon oncle. Je sais pas pourquoi lui. J'ai pas vu depuis très longtemps quand même, mais je sais pas ce qu'il fait là. Bon, enfin bon, bref. Du coup, je suis en train de prendre des mesures sur un meuble qui est complètement bancal. Parce qu'en fait, le restaurant est complètement dans une pente. Et donc, ce meuble qui est complètement bancal est en fait juste au bord du vide. Et du coup, je suis en train de prendre des mesures. Et lui, du coup, il monte dans le meuble pour me montrer qu'il fait 1,87 m à l'endroit où je veux qu'il fasse 1,87 m. Et du coup, je le regarde et tout. Puis le meuble commence à vaciller, vaciller, vaciller. Et je dis, mais descends, je lui tends la main pour qu'il descende. Et en fait, au moment où il descend, le meuble commence à tomber. Et donc, sa tête frappe le sol ultra violemment avec un bruit super sec. Et là, du coup, je me dis, ah, il est mort. Donc, il commence à tomber dans le vide. Tac, je le rattrape pour le mettre sur le sol. Et là, tu vois, comme pour pas voir un mort, je sais pas, sa tête se transforme en téléphone portable. Et du coup, et ça bug en fait sur un jeu. Donc je vois pas un homme mort, je vois un écran de téléphone qui bug sur un jeu. Voilà, ouais, c'est complètement dingue.
Je me souviens qu'une première partie de mon rêve avait lieu dans le village de mes parents, là où j'ai grandi. J'étais devant le tabac-presse qui est à côté de chez nous, en face duquel il y avait jusqu'à il y a peu encore le monument aux morts, qui a été déplacé et qui est maintenant devenu un terre-plein central séparant une route en fourche. Et c'est un peu là qu'on zonait quand on était jeune. Et je me retrouvais là avec un groupe de femmes, dont une qui avait un t-shirt vert délavé. Et on lui parlait de sa grossesse et elle faisait remarquer qu'elle était pas ou plus enceinte. Elle se lissait le ventre d'un air un peu vexé. Et avec ce groupe de femmes, on commençait à parler d'écharpes de portage. C'est un peu une nouvelle passion qui a occupé mes dernières semaines. C'est un monde assez particulier que celui des passionnés d'écharpes de portage qui ressemble de près à celui des collectionneurs et des personnes vraiment, c'est ça, passionnées. Donc il y a des personnes, des femmes surtout, qui passent des heures à surveiller les nouvelles sorties de tissus, de modèles, de motifs. Et j'ai découvert que les écharpes de portage pouvaient aller jusqu'à 3000 euros. Bref, on était en train de parler chiffon et je leur ai dit, attendez, je vais aller vous chercher toutes mes nouvelles écharpes. Donc je rentrais chez mes parents qui sont vraiment la porte à côté et je leur sortais toutes mes écharpes et on commençait à les déployer, toucher les tissus, regarder les couleurs, les manipuler, admirer un motif, une pointe de soie au milieu d'une tricotée en coton. Voilà. Et puis la suite de ce rêve, je pense que j'étais en famille avec mes parents et mon conjoint et nos enfants dans une maison, je sais pas trop, c'était bizarre. Et on devait partir, partir faire une marche puisqu'on devait aller jusqu'à Montpellier. Non, on parlait de Montpellier, mais en fait on devait aller à Sète parce que je sais qu'on allait voir l'expo Calcala au Crac Occitanie, ça c'était l'objectif. Et je vois un écran de téléphone où j'avais dessiné le. J'avais rentré l'itinéraire et je partais la première. Parce que je portais ma dernière année et justement elle était en écharpe de portage. Je partais avec elle. Je suivais l'itinéraire. La ligne de l'itinéraire était bleue sur la carte depuis mon téléphone. Et ça commençait par une grande ligne droite que je suivais. Puis en fait, je me rendais compte que je m'étais trompée de route. Et là, je faisais demi-tour et je croisais des gens qui faisaient une espèce de course sur des coussins, sur une route en pente. Et donc, j'essayais de revenir sur mes pas, mais je me retrouvais prise dans cette course. Et il y avait une épreuve où on devait être en haut d'un toboggan et on glissait les uns après les autres sur ce toboggan. Et avant, il fallait se laisser glisser tous ensemble dans un toboggan collectif. Mais après, on arrivait sur un petit toboggan qu'il fallait prendre individuellement. Et en bas de ce toboggan, je sais pas, il y avait une autre chose à faire et il y avait une petite fille qui avait très peur d'y aller. Et elle était blonde, elle était pas très jolie, un peu rougeaude, toute menue. Et elle avait peur d'y aller, et sa maman essayait de l'encourager. Et en fait, c'est une petite fille qui devait avoir des problèmes mentaux. Et elle comprenait pas tout ce qu'on lui disait, elle faisait des grimaces un peu bizarres. Et puis, il fallait une clé aussi pour aller faire cette dernière épreuve. Et la clé, je sais pas pourquoi, c'était un ami à moi, artiste Yannick Langlois, qui l'avait, et il était parti aux toilettes faire pipi. Et il avait donc cette clé avec lui, et cette petite fille qui avait accepté d'aller faire l'épreuve, du coup se décourageait un peu puisqu'il fallait attendre la clé. Elle était en train de changer d'avis. Puis elle a fini par sortir, elle a donné la clé. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, moi je suis repartie avec... avec mon bébé en porte-bébé. Et j'ai donc fait demi-tour, je suis revenue sur mes pas. Et là, on était dans une route qui ressemblait un peu à un tunnel. Un égout, plutôt à des égouts. Et là-dedans sortaient des camions poubelles. Ou des gros camions de chargement, je sais pas. Et je sais que nous, on devait passer. Pourtant, on était à pied. Et il y a un camion qui sortait. En fait, c'était pas du tout un camion poubelle, puisque... Il est sorti du garage, il s'est mis sur le côté, et là j'ai laissé passer un homme qui est arrivé de la gauche, donc de ce garage, et qui marchait très vite vers le camion, parce qu'en fait je pense que c'est un camion qui faisait aussi bar ou cuisine, et il y apportait un plateau avec, je sais pas, je me sens qu'il y avait une petite tartelette, puis des bouteilles, puis on est passé, et après il fallait tourner à gauche, revenir sur nos pas. Et en fait, je me retrouvais devant la maison. Où là, en fait, toute ma famille était déjà sortie et s'apprêtait à partir. Et je leur disais que je m'étais trompée de route et que du coup, je revenais vraiment au point de départ. Et j'avais perdu du temps puisque je revenais en même temps qu'eux. Et je leur ai dit, voyez, en fait, il fallait pas partir sur la grande ligne à gauche. Il fallait d'abord... il fallait passer sous une espèce de bastingage ou de petite balustrade en fil de métal, et c'était un raccourci. Il fallait passer dessous, on descendait une marche et après on reprenait le chemin. Et puis là, je pense que ma fille a dû se réveiller dans la vraie vie et je l'ai allaitée. Et j'ai oublié de préciser une chose pour la course de coussin vélo qui me paraît importante, c'est que ça se pratiquait sur le ventre, donc on était sur le ventre, on glissait sur le ventre, et en fait je sais pas pourquoi, mais les coussins étaient aussi sur notre dos, puisque je vois la scène de haut, et quand on faisait la glissade collective où tout le monde avançait ensemble, ça faisait comme une mosaïque de couleurs dans des tons assez pastels, puisqu'il y avait des petits rectangles bleu ciel, d'autres roses saumon, et puis des beiges.
J'étais en train de lire une brochure dans une bibliothèque, une sorte de publicité, je sais plus pourquoi. Je voulais lire des livres de recettes de cuisine de différentes religions. Et en fait, il y a une dame qui est arrivée et qui a pris des photos avec son téléphone. Et qui m'a demandé... Ou alors c'est moi qui ai commencé par lui demander si je pouvais l'aider. Et elle m'a dit, c'est plutôt moi qui devrais vous poser cette question. Et en fait, j'étais dans cette bibliothèque, mais j'avais pas le droit d'y aller. Je sais plus comment ça avait commencé. Du coup, elle s'asseyait, elle ouvrait un cahier. Où il y avait des un peu comme des cases de formulaire pour noter ma déposition, quelque chose comme ça. Et moi j'allais commencer, là je m'apprêtais à lui raconter et j'essayais dans mon rêve de me souvenir comment j'avais eu les clés de cet endroit-là où j'avais pas le droit d'être. Je sais pas si ça a un lien avec. Mais je sais que j'avais aussi des vêtements stockés dans un garage. Je me revois avoir égrené une pile de vêtements où il y avait des soutiens-gorge, des petites culottes. Il y avait aussi des petits sacs, voire des tout petits sacs, genre de la taille d'une phalange de petits doigts. Et du coup, je prenais rien de tout ça parce que j'avais déjà mes fundoshi. J'avais pas besoin de ces choses-là. Et je crois que plus tôt aussi, je me souviens avoir... J'étais avec une bande d'enfants. Mais je sais pas si j'étais un enfant. Et en tout cas, je discutais avec un garçon, un enfant. Et j'apprenais qu'il avait déjà conduit un tractopelle avec son père. Et j'en revenais pas.
Aujourd'hui, c'était un rêve au restaurant où il y avait une cour. Et bon, en fait, il y avait des enfants pas gentils. Bah, ils voulaient jouer avec personne, sauf avec leur bande.
J'ai fait un rêve bizarre. C'est un rêve qui était assez long, je crois. Je m'en souviens pas en entier. Je me souviens surtout d'un personnage dans ce rêve. Le rêve prenait part dans l'ancienne maison de mes parents, mais qui était beaucoup plus grande. Il y avait des pièces qui n'existaient pas en vrai, dont une espèce de pièce un peu étroite, mais avec un jacuzzi énorme dans le fond. Et des pierres noires sur lesquelles il fallait marcher. Et je crois qu'il y avait une fête dans cette maison, j'avais dû organiser une fête, et je m'en voulais parce que les gens avaient fait du bazar, et les trucs étaient pas comme c'était censé être. Et entre autres, ces pierres noires avaient été déplacées. Et je trouvais ça dramatique. Je sais pas trop pourquoi. Je sais qu'il y a de l'eau qui coulait sur ces pierres en permanence. C'était un truc un peu... je sais pas, esthétique, qui... feng shui, je sais pas quoi. Et puis, par contre, dans la maison, même ma chambre, celle de mon petit frère, était pareil. La même taille, même déco, tout pareil. Sauf que mon lit était pas au même endroit. Et que c'était un lit de place. Et je dormais dans mon rêve. Et je me fais réveiller par quelqu'un qui était dans la chambre de mon petit frère, qui était juste à côté. Donc, je vais voir ce que c'est, et puis il y a un gars qui est là et qui est très triste, et quand il se rend compte qu'il m'a réveillé, il est confus. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il va pas? Puis il me raconte, alors je sais plus trop ce qu'il me raconte, il me raconte qu'il va pas bien, qu'il est triste, qu'il n'arrive pas, et je lui explique qu'il faut qu'il se connecte à ses sentiments, et qu'il fasse sortir ce qui va pas pour que ça aille mieux, et qu'il soit honnête avec lui-même, etc. Ce qui était surprenant sur ce bonhomme, c'était son apparence. Parce qu'il avait... je sais pas comment formuler ça... Il avait une tête d'œuf, quoi. Enfin, il avait une tête toute ronde sur le dessus. Il était pas chauve. Tête toute ronde sur le dessus. Et à partir de sa mâchoire... la peau ne revenait pas vers un cou qui aurait été plus étroit. C'est-à-dire que son cou était aussi large que sa mâchoire. C'était très 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 bizarre. Mais ça me paraissait normal. Il avait des taches de rousseur sur sa peau, sur cette espèce de tête en forme d'ogive là. Et ses cheveux m'ont fasciné dans mon rêve, parce qu'il avait des espèces de... Alors il avait une peau de roux, hein, vraiment pâle. Et il avait des cheveux un peu blonds, roux, mais avec une couleur vraiment étrange, une couleur un peu paille passée. Et mêlés en tresse, entre la tresse et la dreadlock, je sais pas trop. Et ils étaient étonnants parce qu'ils partaient de l'arrière et ils montaient, ils remontaient vers le haut de son crâne. Et pour grimper en l'air, ça c'était tendu vers un peu dans le. La tresse était tendue vers le ciel. Et ces tresses étaient décorées ou accrochées les unes aux autres par des espèces de petites pierres grises, comme des colliers de pierres, qui étaient dans ses cheveux, comme ça, et qui faisaient du bruit, et je me souviens du bruit, en fait. Ça faisait un petit tac-tac, rocailleux, minéral, qui était agaçant, parce qu'il me parlait, puis en fait, il était venu s'allonger dans mon lit, puis moi j'essayais de dormir, puis il me parlait. Et ce qui m'agaçait, c'était pas sa voix, parce que ça allait, c'était le bruit de ces petites pierres dans ses cheveux. Je sais pas ce qui est devenu, je sais pas qu'est-ce qu'était ce bonhomme, je sais pas ce qu'il est devenu, mais il m'a vraiment fasciné.
Je suis chez mes parents. Je suis assise à la table de la salle à manger. Nous sommes quatre autour de cette table. À gauche, il y a ma mère. À droite, mon ami. En face, quelqu'un, sans doute ma grand-mère, mais je ne suis pas certaine. Et il y a un scorpion qui passe de chaise en chaise. Et en fait, il est beaucoup sur moi. Et à un moment, il va commencer à descendre le long de ma jambe droite. Et il va s'agripper à ma cheville. Mais en fait, je crois que c'est pas un scorpion. Je pense pas que ce soit un scorpion. Je pense que c'est plutôt un crabe. Et il s'agrippe à ma cheville. Moi, j'ai les jambes tendues, comme si je les posais sur la chaise en face. Et en fait, il serre de plus en plus. Et je n'arrive pas trop à l'enlever avec mon autre jambe. Et dans la discussion, j'ose pas trop le dire. Et puis, au bout d'un moment, je le dis parce que. Vraiment, il me serre trop. Et ma mère, elle essaie de l'enlever. Mais avec difficulté, elle y arrive. Et après, il y a peut-être une ellipse. Ou au moins que ce soit la continuité du rêve. Je sais pas. Je suis dans une maison. Une autre maison. Que je connais pas. Elle est positionnée comme dans un bourg. D'un village. Les pièces, elles sont vraiment toutes petites. On l'a loué sur Airbnb avec des amis. Mais je crois qu'il y a aussi mon frère. Bon. Et ma cousine. Enfin, je sais pas trop qui sont les gens avec moi. Mais pareil, on est quatre. Et au début, c'est des amis. Puis après, ça devient ma cousine et mon frère. Enfin, je sais pas. Et cette maison, elle est très particulière. Elle est toute petite. Et en fait, au moment où je vais aller prendre ma douche, mais la douche, elle fonctionne pas très bien. Enfin, en fait, la paume de douche, elle se défisse. Du coup, je suis plutôt avec un tuyau d'arrosage pour prendre ma douche. Et à un moment, en sortant de la salle de bain, d'ailleurs, j'ai pris une douche vraiment trop, trop longue. Et en sortant de la salle de bain, en fait, à la fenêtre, je vois mon frère aussi, il voit, on pense que c'est mon frère qui est avec moi, un homme avec un chapeau de forme, des lunettes rondes. Il est assez costaud, cet homme, assez rond. Et il fait un peu penser au personnage dans L'étrange jeune monsieur Jack, celui qui joue au poker. Mais bon, il a des jambes. Et il passe comme ça de... maison, et nous on doit se cacher, il doit pas nous voir, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il fait une sorte de recensement, enfin, en gros, c'est quelque chose qui est pas très sain, en tout cas, et qui peut être une forme d'atteinte à la liberté, ou je sais pas. Enfin bref, en tout cas, on décide de se cacher, et on décide d'aller dans une pièce qui est au cœur de la maison, de rentrer dedans. C'est un peu comme un bunker. Et ma cousine, elle est allongée, elle est malade, et c'est très compliqué de l'emmener dans ce bunker. Mais on y arrive quand même. Enfin, on doit quand même prendre des vêtements, de quoi manger, boire. Mais peut-être que c'est là où je prends ma douche. C'est un peu confus. Hein. Mais bon. Et en parallèle, eh bien, il y a un autre... Je dois partir... Oh, je suis assis... Donc c'est à peu près encore dans cette maison. Mais là, je suis avec mon compagnon. Et en fait, il y a son frère et sa femme. On doit partir quelque part. Et il décide de laisser leur enfant. Ils ferment à clé la maison pour que les enfants aillent faire leur sieste pendant que l'on parte. Et c'est le chien qui les surveille. Moi, je trouve ça un peu dangereux. Mais bon, c'est ainsi.
Cette nuit, c'était assez marrant. J'ai rêvé de... qu'on posait les tuyaux d'égout dans la terre. Et je me souviens pas, mais j'ai dû réveiller ma copine parce que je pouvais pas placer un tuyau sous elle et il fallait qu'elle bouge pour que je puisse creuser un trou.
Cette nuit, j'ai fait un rêve où on marchait avec Vincent et après, sur le bord d'un ravin, une sorte de précipice, il y avait deux enfants qui étaient là. Et je leur disais, mais attendez les enfants, faites attention, là, vous êtes sur le bord, vous allez tomber et tout ça. Et après, on se rendait compte qu'ils étaient abandonnés. Alors, on les prenait et ensuite, il y avait des gens qui couraient après pour récupérer ces enfants, mais pas parce que c'était leurs enfants, mais c'était des enfants un peu... Bah, je sais pas, un peu spéciaux, je pense qu'il fallait les récupérer, mais c'était pas les leurs. Ça, je savais, parce que les enfants, ils ressemblaient pas du tout. Pour moi, physiquement, je me disais, c'est impossible que ce soit les parents. Ah, ils ressemblent pas du tout aux enfants. Et on passait plein de paysages, comme ça, et à un moment, quelqu'un voulait attaquer Vincent, et on mettait des branches devant lui, et à cause des branches, il pouvait plus passer. Comme si les branches nous rendaient invisibles, alors que les branches, bah, elles auraient été très faciles, en fait, à casser. Et... on continuait comme ça, mais après les enfants, je crois, ils disparaissent. Et après, on arrive à une sorte de grande montagne, moitié en terre. Et là, il y avait quelqu'un qui faisait une visite guidée, qui expliquait, oui, pourquoi il y avait cette montagne en terre. Mais en fait, c'était pas une montagne en terre, ça ressemblait plus à la dune du Pila. Et quand je dis terre, c'est de la vraie terre, tout émietté, quoi. C'était plus comme la dune du Pila. Et... là, j'ai la lettre d'un ami qui me disait qu'il allait partir loin, loin, loin. J'étais un peu surprise. Et après, on recontinue notre chemin. Puis je sais plus trop après.
Je remonte la rue principale du quartier de mon enfance. Il fait noir. C'est la nuit. Mais je peux voir les arbres de la forêt environnante et les rails du tramway en bois du quartier de Santa Teresa. J'avance à reculons à côté de mon vélo que je traîne parce qu'il est cassé. Je crois que je suis triste. J'aperçois la source de lumière venant de la caserne des pompiers au pied de la résidence où habite ma mère. Au moment même où je lève les yeux, j'entends quelqu'un m'appeler derrière moi. Je me retourne. Et c'était lui. Celui qui m'a fait tourner la tête et m'a retourné le ventre il y a peu de temps. Il m'invite à faire demi-tour et à rebrousser chemin à ses côtés. Nous marchons côte à côte jusqu'au moment où il m'indique un nouveau chemin. Une ruelle très éclairée qui n'était pas là avant et qui descendait, je pense, vers la mer. J'hésite à le raccompagner et je me réveille.
Ce matin, j'ai rêvé que j'avais des enfants, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. J'en avais un surtout, j'étais une petite fille, j'étais vraiment très heureuse et je l'aimais beaucoup. Et en fait, cette petite fille, c'était moi petite. Et on se faisait des grands sourires, on se comprenait, ça me faisait du bien de parler avec elle. Et un peu plus loin, parce que j'étais sur un grand lit, il y avait un autre bébé, je savais aussi que c'était le mien, mais lui, il n'avait rien à voir avec moi. C'était quelqu'un d'un peu plus absent. Voilà.
C'est comme si j'étais dans cette même chambre, mais que les arêtes étaient lumineuses. Ce qui fait que je voyais vraiment, en fait, je voyais ma chambre comme si c'était une espèce de figure géométrique dans un fond sombre. Voilà. Et donc, il y avait des lignes hein, qui divisaient, l'espace entre les quatre arêtes du sol et puis les quatre arêtes du plafond. Il y avait des arêtes qui venaient s'intercaler entre pour subdiviser un petit peu l'espace. Et ça me donnait une impression de quelque chose de très, très froid, de très synthétique. Ça faisait un peu science-fictionnel. Un peu comme si j'étais plongé dans une espèce de matrice. C'était vraiment hyper désagréable et c'était vraiment quelque chose qui me faisait vraiment très peur.
Alors, mon rêve, c'était que je jouais dans un terrain de foot où Mbappé y jouait en vrai et mon équipe, c'était un dinosaure, un rat, une petite souris. Et super, c'était super cool et moi, je n'étais pas un enfant de 7 ans. J'étais un tyrannosaure rex.
On était dans une soirée, je sais pas quoi, fort en bois, une cuisine, je sais pas, on était avec des copains. Il me semble qu'il y avait Amélie dans le tas, bon bref. Du coup, tout à coup, bam, bouf, oh, je suis dans une espèce de chambre parlementaire, dans un hémicycle, mais assez en hauteur. Un peu, tu vois, comme sur les balcons quand t'es en haut de l'opéra, là. Ça, t'es un peu haut, là. Mm. Et je suis à côté d'Emmanuel Macron, qui, en fait, est un peu mon cousin. Ouais, c'est un peu mon cousin et tout. Et... Enfin, genre, on se parle, on se tutoie et tout, parce qu'on sait qu'on n'est pas les mêmes opinions politiques, tu vois, qu'avec ta famille, des fois. Mais on se parle. Puis je me dis, putain, Emmanuel, quoi. Tu trouves pas qu'il y a un problème avec le système judiciaire en France? Mais tu vois bien, c'est pas possible, les prisons, là. Moi, je sors de la prison des femmes, quoi. Il y a un problème. Et en fait, il m'écoute avec vachement d'attention. Et genre, il attend le développement de mon idée. Et moi, je suis incapable de développer mon idée. Parce qu'en fait, je suis juste dans l'émotion d'un truc que j'ai ressenti fort, d'une expérience que j'ai eue récemment. Et j'arrive pas à formuler. Et je vois que là, putain, j'ai l'attention du putain de fucking président, quoi. Et j'arrive pas à formuler ce qui va pas, en fait. Et je suis dégoûtée. Et tu vois. Puis après, je suis juste là. Mais tu vois, quoi. Puis lui, il me regarde d'un regard hein, attentif. Il est là avec moi, quoi. Puis je vois bien qu'on a créé un petit moment intime. Enfin, voilà, on n'est pas dans le monde politique, on est juste entre cousins. Et du coup, je suis pas capable de me lancer mes idées. Parce que j'étais dégoûtée, quoi, en me réveillant.
C'était Le goût de rêve, une œuvre collective initiée par Camille Bondon et Michel Dupuis. Merci à tous les contributeurs, à toutes les rêveuses et tous les rêveurs, Karine, Anaïs, Alice Thomas, Laura, Amandine, Claire, Camille, Cléo, Maxime, Camille, Mathieu, Fanny, Tania, Morgane, Fabien, Ethan, Estelle, Izzy Pété, Amandine, Isabelle, Cyril, Marie-Paul, Lila, Alice et Marion. Merci pour votre écoute.